Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir, Babette. Bonsoir.
Et bonsoir à notre chef du jour, Julie Chay, aux commandes du restaurant Le Benvegudo, au Beau-de-Provence. Une salade automnale ce soir, chère Julie.
Tout à fait, avec des prunettes d'Agen IGP.
Merci beaucoup. À tout à l'heure, c'est le menu du dîner qu'on aura le plaisir d'offrir à Leïla Bekti et Anne Berest. Et au menu de l'actualité ce soir, Émilie, votre choix du jour.
Faut-il retranscrire toutes les déclarations de Salah Abdeslam, le principal accusé des attentats du 13 novembre? C'est la question que se posent tous les journalistes qui suivent ce procès.
Mohamed, la story du jour.
Ce soir, je vous raconte l'histoire des 15 policiers oubliés des attentats du 13 novembre.
Et pourtant, ils ont été l'un des les héros aussi de cet assaut. Mathieu, dans le 5 sur 5.
Éric Zemmour à la une de Paris Match avec une enquête qui fait beaucoup parler ce soir.
Dans votre œil, Pierre.
Eh bien, moi qui n'aime pas les classements, je vous dirais quelle est la plus grande chanson de tous les temps, selon le magazine de musique Rolling Stone.
Autant de sujets que l'on soumet ce soir à notre invité, l'un des plus ardents défenseurs de la liberté d'expression, avocat de Charlie Hebdo, mais aussi de la jeune Mila. Richard Malka signe le droit d'emmerde des dieux, un titre de combat pour porter haut les valeurs de laïcité, d'universalisme et de liberté au pluriel. Il est ce soir notre invité. Bonsoir Richard Malka.
Bonsoir Richard.
Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Merci de votre présence ce soir. Ce livre, c'est la version in extenso de la plaidoirie que vous n'avez prononcée qu'en partie. Il y a bientôt un an au procès des attentats de janvier 2015, avec un titre qui n'est pas anodin, un gros mot que vous avez prononcé à l'audience, mais non pas sans hésiter, Richard.
Oui, parce que j'avais une pudeur dans une salle d'audience à prononcer ce mot-là. Ça ne se fait pas dans une plaidoirie, normalement, mais je défendais Charlie. Et puis, il y a un moment, j'avais envie de pousser un cri, en fait. Et c'est ce que veut dire ce titre. C'est un cri, d'abord, c'est un cri joyeux. C'est rare, les pays où on a constitutionnellement protégé et déclaré le droit d'emmerder. Et on est dans un pays comme cela, et il faut le protéger. Mais c'est aussi un cri de colère. C'est un cri de colère parce que il y a de nombreux pays au monde où les gens qui contestent les religions, Dieu, meurent, sont condamnés, y compris à mort au Pakistan et bien ailleurs. Et puis on est mort en France beaucoup pour avoir ce droit-là et on est encore mort en 2015. Et puis enfin, c'est un cri de désespoir aussi parce que comment ça se fait qu'on en soit encore à revendiquer ce droit alors que l'on pensait que c'était définitivement acquis? J'avais envie de pousser ce cri, je l'ai poussé en plaidant et à nouveau dans ce titre.
Et puis c'est le mot de Cambronne.
C'est le mot de Cambronne, alors il a une histoire, ce mot qui est raconté dans Hugo, dans des merveilleuses pages des Misérables. Les généraux anglais à Waterloo demandent à Cambronne sa reddition et il prononce ce fameux mot de cinq lettres. Il ne veut pas se rendre, c'est aussi ce que dit ce livre. Ne nous rendons pas.
C'est un mot de résistance et ça fait partie de l'histoire, le blasphème en France. C'est le premier pays au monde à avoir aboli le délit de blasphème. Il faudrait peut-être mieux l'enseigner, cette histoire en
France. Nous sommes le premier pays au monde à avoir déclaré la liberté d'expression comme une liberté fondamentale en 1789. C'est le fruit de notre évolution. Et le premier pays au monde à avoir aboli le délit de blasphème en 1791. Effectivement, c'est notre histoire. Ça dit que l'on a le droit d'aimer, de ne pas aimer, d'aimer à moitié, ou de détester même les religions. On a ce droit-là. Et quand je vois se répandre comme une traînée de poudre l'idéologie selon laquelle nous aurions tous l'obligation de respecter les religions, puisque c'est ce que l'on entend dans les salles d'audience. C'est au titre de cela que l'on harcèle, que l'on menace et parfois que l'on tue. Effectivement, j'ai envie de me révolter, de me rebeller et d'appeler tout le monde à se réveiller. Et surtout les jeunes. C'est de vos libertés dont il est question. À quel titre serais-je dans l'obligation de respecter des religions qui déclarent que quand sa femme n'est pas gentille, on a le droit de la battre pour qu'elle redevienne gentille, ou qu'il faut brûler les homosexuels, ou qu'il faut déclarer des guerres ou condamner à mort? Non, je ne les respecte pas, c'est le droit de chacun et c'est un droit joyeux et on peut y compris être croyant et avoir cette culture de la discussion, du dialogue, de l'interpellation de sa propre religion et de son propre Dieu. On n'est pas dans, je l'ai déjà dit, dans une morale de l'esclavage quand on est croyant. On a ce dialogue-là avec sa propre religion. C'est le fondement de nos libertés.
On y revient longuement, Richard Malka, notamment alors que se déroule depuis le 8 septembre le procès des attentats du 13 novembre. Mais d'abord, à la une de l'actualité, il y a aussi les annonces faites ce matin à l'issue du Conseil de défense sanitaire. La quatrième vague du Covid continue de retomber. Mais Patrick, pour l'instant, pas de modification du pass sanitaire qui reste en vigueur dans tous les départements.
Oui, j'ai un scoop ce soir.
Ah.
Emmanuel Macron est très malheureux. Il est malheureux parce que mercredi dernier, au musée Marcel Proust à Hélier-Combray, il s'est risqué à confier ceci.
Si on peut demain arrêter le pass sanitaire, je suis le plus heureux des hommes.
Autrement dit, vivement qu'on en finisse, je serai heureux, vous serez heureux. Le président ajoute qu'on va bientôt alléger les contraintes dans les départements où le virus circule moins vite, qu'au vu des chiffres, ça sera pour bientôt, ça ne va pas venir si tard, a-t-il dit. Dans la foulée, on apprend qu'un conseil de défense va discuter mercredi, c'était donc ce matin, et finalement, rien ne change. Le pass est maintenu partout, un projet de loi sera élaboré pour le prolonger au-delà du 15 novembre, ce qui était fixé par la loi, c'est la fin de l'état d'urgence. Le seul allègement annoncé aujourd'hui, c'est la fin de l'obligation du port du masque à l'école primaire à partir du 4 octobre dans les départements les moins touchés par l'épidémie. Réaction du syndicat UNSA Éducation, cette décision soulève beaucoup d'inquiétudes chez les personnels. Pas facile de contenter tout le monde.
Comment expliquer ce grand écart entre les déclarations d'hier et les décisions d'aujourd'hui ?
Eh bien, on est entré dans une période où les politiques, au pouvoir ou dans l'opposition, le président comme les autres, ont envie de dire des choses qui font plaisir. Ils ont envie de faire couler du miel dans les oreilles qui les écoutent. Ça s'appelle une campagne électorale et en l'occurrence une campagne présidentielle. Ce qui est très curieux dans cet épisode, c'est de savoir à qui le président pensait-il faire plaisir en annonçant la fin prochaine du pass sanitaire. Est-ce que ce pass est encore vécu comme une contrainte, comme une privation de liberté ? Est-ce que sa suppression ne ferait pas surtout plaisir à ceux qui ne le possèdent pas, qui continuent de refuser la vaccination et espèrent bien y échapper prochainement avec la disparition du pass. Je vous laisse méditer sur ce drôle de calcul politique de la part du président. En tout cas, les spécialistes et autorités de santé ont été nombreux ces derniers jours à considérer qu'il ne serait pas raisonnable, même avec une épidémie en reflux, de se priver dans l'immédiat, très vite, d'un outil qui nous protège collectivement, qui incite à la vaccination. Ce n'était pas le moment de confondre les prédictions épidémiques et les promesses de campagne.
Bonsoir Gilbert Deray.
Bonsoir.
Chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière, merci de votre présence ce soir. Il n'était pas raisonnable de se priver de cet outil, le pass sanitaire, qui non seulement permet de protéger la population, mais surtout qui incite à la vaccination. Il y a encore 8 millions de Français qui ne sont pas vaccinés.
On vit en fait une drôle de période, en fait, parce que j'ai du mal à comprendre ce qui est politique, ce qui est sociétal et ce qui est sanitaire. Et je pense qu'en fait, je ne comprends pas parce que tout est mélangé, bien entendu. Et on a des désirs très contradictoires. En tant que médecin, pour le purement sanitaire, c'est trop tôt. C'est dommage. Ça a été tellement dur à mettre en place. Ça a fait son effet. Et il est en place depuis tellement peu de temps. Donc parler de l'arrêt du pass sanitaire maintenant, je trouve ça étrange. La deuxième chose qui vient en collision, c'est qu'on a un désir, tous, d'aller mieux et de liberté. Et il est vrai qu'il faut offrir aux Français un peu d'espace de liberté, un peu de perspective, surtout maintenant. Pourquoi maintenant ? Parce que rien ne dit qu'en octobre, ou en novembre, ou en décembre, on ne va pas avoir une reprise épidémique.
C'est ce que pense l'épidémiologiste et membre du conseil scientifique, Arnaud Fontanet, qu'il y aura un rebond.
Ce que je crois aussi, c'est que le mur vaccinal va tenir et qu'il va se passer comme dans plein de pays, Singapour par exemple, où en fait ça va être une forme modérée. Mais que si on doit prendre un peu d'air, c'est maintenant. Alors comment trouver l'équilibre dans tout ça ? Ça, c'est pas simple. L'effet d'annonce n'est pas bon. Il n'est pas bon, l'effet d'annonce. Mettre tant de pression sur le pass vaccinal, mettre les gens dans la rue, dire maintenant qu'on l'enlève, avec des gens contre les vaccins qui nous disent « j'ai bien fait de ne pas me faire vacciner, regardez ». Ils nous l'enlèvent déjà. Et ils sont en train de dire autour d'eux « on a gagné ». Non, d'abord, vous n'avez rien gagné, puisque en fait, vous menacez les autres. Donc, ce n'est pas une bonne idée.
Et alors, surtout, il est maintenu, là,
l'occurrence. Et puis, il y a une autre chose qui est étrange, c'est de commencer par les écoles. Alors ça, c'est très étrange.
Par le fait qu'on puisse retirer le masque à partir du 4 octobre
dans les écoles primaires.
Et oui, quand vous regardez...
Dans les zones où l'épidémie est vraiment...
Quand vous regardez l'incidence, cette fameuse incidence de l'épidémie pour 100 000 habitants. Là, voilà, là, vous les avez à l'écran. À gauche, à ma gauche, vous avez l'incidence en population générale. Vous voyez, c'est tout clair, c'est bon signe, ça. C'est moins de 50. Mais regardez à droite, c'est les 6-10 ans. C'est rouge, hein. Autrement dit, on va faire tomber le masque chez les petits, alors que chez eux que l'incidence est élevée. Ce qui veut dire qu'une fois de plus, on considère que la contamination chez les petits n'a pas d'importance. Ça qu'on considère.
Et c'est une erreur. Et c'est une erreur parce
que... On a cessé de nous répéter que la maladie n'avait pas de forme grave chez les plus jeunes.
C'est une erreur.
C'est dans les départements où l'incidence serait à moins de 50,
oui,
hein, en l'occurrence.
Mais de la population générale. Alors, quand vous croisez la population générale et les enfants, ce n'est pas la même. Moi, j'ai plein de départements où j'ai 40, 30, 50, et j'ai 100, 150 chez les petits.
3500 classes fermées aujourd'hui dans toute la France.
Alors, ça, ça mérite un commentaire parce que les données, on voudrait les avoir. Hein, parce que les données sont non publiées, non accessibles. Bien. Donc, moi, je voudrais bien avoir un peu
Donc,
plus
il aurait fallu maintenir le masque partout, au primaire, chez des enfants pour lesquels c'est difficile à supporter. Il y a eu un immense soulagement du côté des parents lorsqu'on a annoncé la fin de ce port de masque.
Alors, moi, j'ai été regardé parce que je suis ni pédiatre, ni pédopsychiatre. Et ça fait des mois que je m'entends dire le masque chez le petit, c'est grave, ça les empêche d'apprendre à parler, etc. etc.
À lire au CP.
Eh bien, j'ai été regardé parce que je me suis dit, je vais trouver des tonnes de publications. Vous savez quoi ? Il n'y en a pas. Autrement dit, sur le fait que le masque puisse empêcher les enfants d'apprendre, vous ne trouverez rien. Pour être très exact,
on manque peut-être un peu de publications.
Non, je suis passé, j'ai remonté avant. Et 2012, il y a une petite étude qui a été faite qui montre qu'il n'y a pas de différence. Et je vais vous donner un exemple qui m'a frappé, moi. Un enfant qui ne voit pas, a-t-il des difficultés d'apprentissage ? Non. Ce qui veut dire que... Alors, l'analogie est un peu brutale.
Oui, parce qu'il
apprend avec d'autres façons. Ce qui veut dire que vous pouvez ne pas voir le visage et apprendre quand même. Et ce que je lis quand même, et ce que les experts disent, c'est que si le matin et le soir, les parents font le job, parlent à leurs enfants, donc sans masque, et qu'à l'école, on fait un petit effort, personne ne peut vous dire aujourd'hui que ces 18 mois de pandémie avec un masque et les 6-10 ans va leur faire le moindre effet sur l'apprentissage et la parole. À l'inverse, et je vais pousser jusqu'au bout le raisonnement, on nous dit aussi que ce n'est pas grave d'être infecté en 6-10 ans. Mais on oublie, un, qu'on a qui vont à l'hôpital. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais on n'en veut pas. On oublie, deux, qu'il y a des décès, pas beaucoup. C'est quand même 500 décès aux États-Unis. C'est beaucoup pour des petits, petits, petits. On oublie, trois, la Covid longue. Donc il va bien falloir qu'on parle et que personne ne veut prendre en considération. Et on oublie, quatre, que les effets au long terme du virus... en particulier sur le système neurologique, reste pour une part grandement inconnue. Et il y a des gens qui alertent et qui disent que quand vous avez la Covid, qu'elle va dans vos neurones, qu'ils soient olfactifs ou au-dessus, vous avez des dégâts cérébraux, pour les plus atteints, qui ressemblent au Parkinson et à l'Alzheimer. Eh bien, moi, je ne voudrais pas que mes gosses, de 6 à 10 ans, par milliers, par millions, aient la Covid.
Votre conclusion,
professeur,
il faut maintenir... l'arsenal qui est le nôtre aujourd'hui, le plus longtemps possible, quitte à l'adapter, à le suspendre ici ou là. Quel est le mode d'emploi ? C'est compliqué de sortir de cette vague.
C'est compliqué. Deux, je vais quand même essayer de sortir des choses un peu plus sympathiques, un peu plus pratiques. Dans les départements où le taux d'incidence est vraiment bas, alors au moins inférieur à 50, chez les adultes et les enfants, on lève les mesures. Dans les départements où le taux est très bas, on discute de la levée du pass sanitaire dans cela seulement. Et attention, il faut qu'on ait une garde rapprochée, une surveillance très rapprochée. Parce qu'il ne faut pas refaire les mêmes erreurs que l'autre fois, qui est on arrête, puis on attend pendant des semaines et des mois, on ne reprend que lorsque la situation est grave. Donc si on est agile, souple, et qu'on est capable à la fois de prendre les bons départements et de surveiller ces départements, on y va. Et enfin, pour les enfants, on ne teste pas.
Et il faut tenir compte du taux de vaccination dans les départements, puisque, encore une fois, on le rappelle, la vaccination, elle plafonne aujourd'hui.
Absolument.
On est à 50 millions et des poussières, parce que les rendez-vous, le nombre de rendez-vous quotidiens pour les injections a considérablement chuté, et ça ne progresse plus beaucoup. 50 millions, 150.
Donc on maintient le pass là où on se vaccine le moins.
Alors, vous allez voir, de toute façon, c'est là où on ne vaccine pas qu'on va avoir le plus de contamination. Il y a un arc sud-est qui ne va pas bien. Vous avez vu PACA et à côté.
Bouches-du-Rhône, particulièrement.
Il est clair que c'est là que vous aurez des problèmes. Et évidemment, et ça aussi, je trouve que c'est intelligent dans le message passé aux Français, comme le pass sanitaire, comme le pass global. Si vous dites, là où on est vacciné beaucoup, on va pouvoir lever les mesures, c'est pas mal ça, pour booster la vaccination.
Richard Malka, votre regard d'avocat et de défenseur de la liberté face à ces contraintes, ces privations de liberté qui ne sont pas prêtes de se lever tout de suite.
Alors, je ne sais pas si le masque empêche l'apprentissage. Ce que je peux vous dire, c'est que le masque rend très difficile l'activité d'avocat,
et la plaidoirie.
Plaideur. Parce que non seulement vous en avez un, ce qui est difficile, mais surtout vous ne voyez pas le visage de vos juges. Et le cerveau réagit au visage de l'autre, en fait. au-delà de ça, et plus globalement, j'avoue que je suis un peu effaré par les discours de Florian Philippot et d'autres sur le thème des libertés qui seraient confisquées. Enfin, on a l'impression qu'on vit en Corée du Nord avec un président de la République qui serait entre Pol Pot et Staline. Tout ça est totalement ridicule, caricatural. Les libertés, elles ne sont jamais absolues, sauf peut-être celles dont je
vous
parle,
défendez.
S'agissant de la contestation, même pas des hommes, parce que là, il y a beaucoup de limites, mais des croyances. Mais c'est toujours relatif. Toute la journée, à chaque minute de vos journées, vous concédez des libertés pour vivre en société. Quand vous vous arrêtez un feu rouge, bah c'est une atteinte à votre liberté. Quand vous payez des impôts, c'est une atteinte à votre liberté. La seule question à se poser, c'est est-ce que c'est légitime comme atteinte. Sinon, il faut être Robinson Crusoe si on veut avoir toutes ces libertés. Est-ce que c'est légitime? Il y a une pandémie mondiale, il y a des millions de morts. Enfin, si ce n'est pas légitime là, je ne sais pas où est la légitimité.
Merci beaucoup Gilbert Doré d'être
venu
ce soir sur le plateau de C'est à vous. Richard Malka, vous restez avec nous pour la story de Mohamed Bouafsi. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir Mohamed, bonsoir à toutes et à tous.
Salut, bonsoir.
Les premiers policiers à être entrés, à avoir pénétré au Bataclan le 13 novembre 2015 ont témoigné aujourd'hui lors du procès des attentats. Vous nous racontez leur histoire ce soir.
21h59 au Bataclan, le commissaire C de la BAC annonce à la radio de la police un terroriste abattu sur le Bataclan. À ce moment-là, 15 fonctionnaires de la BAC 75N quittent rapidement leur base. En quelques minutes, ils arrivent boulevard Voltaire. La hiérarchie leur empêche d'approcher le Bataclan, mais certains de leurs collègues se font rafaler à la Kalachnikov par les terroristes. Contre la décision de leur hiérarchie et avant l'arrivée des unités lourdes de la brigade de recherche et d'intervention, ils décident de rentrer dans la salle de spectacle. Leur objectif, sauver un maximum de personnes dans la fosse.
J'avais envoyé un petit SMS quelques secondes au préalable à ma famille, un je t'aime au cas où, et puis on rentre dans le bâtiment. Il n'y a personne à l'intérieur, c'est le calme plat. Et quand on rentre, petit gémissement à droite, je tire le corps. Et mon patron qui est derrière nous et qui crie aux victimes, les personnes valides, levez le bras. Vous allez vous lever une par une, avancer vers nous. Mouvement de foule, les victimes donc bousculent mon bouclier qui manque de trébucher. Et là, on se retrouve à les braquer.
Les policiers de la BAC n'ont jamais été formés à ça. Ils sont habitués au flagrant délit, à l'arrestation de dealers. Ils vont découvrir une scène de guerre, un carnage. Pendant près de 45 minutes, ils vont trier les victimes. Ils vont fournir les premiers secours. Ces policiers de la BAC resteront au Bataclan jusqu'à 3h du matin. Mais derrière, plus rien. On les raye de l'histoire, ce sont les oubliés de la police au Bataclan. Personne n'en parle dans les livres, ni à la télévision. Ils ne sont même pas invités à la cérémonie nationale aux Invalides. Aujourd'hui, certains sont encore dépressifs, d'autres ont divorcé.
Aujourd'hui, j'arrive à avoir certaines réponses que j'attendais déjà depuis 5 ans. J'avoue aussi qu'effectivement, quelquefois, ça m'arrive de me réveiller en sursaut, de même rêver de rêver. Ou de cauchemars d'éveillés. Aujourd'hui, je suis plus dans l'interrogative, dans la recherche. Et quand je vous dis recherche, c'est l'intervention, je me la refais en long, en large et en travers.
Hier encore, l'administration leur a refusé la prise en charge de leur défense par des avocats. Motif du refus, l'administration ne peut pas établir que les policiers aient été confrontés aux terroristes ou à une quelconque attaque. Eux espèrent juste une forme de reconnaissance et surtout que ça puisse aider les victimes à se reconstruire.
Il y a plusieurs niveaux. Au premier chef, que leur statut de victime soit reconnu, que leur constitution de partie civile soit acceptée. Ensuite, que la chronologie des faits et la chronologie de leur intervention soit enfin restituée. Je dis enfin parce que la narration judiciaire et la narration journalistique, jusqu'à présent, jusqu'à très récemment, omettaient leur rôle.
Alors nous avons contacté la préfecture de police de Paris afin d'avoir une réaction, silence total sur le sujet. Maître Malka, quand vous venez de découvrir cette histoire des 15 oubliés des attentats du 13 novembre, des 15 oubliés de la police, on imagine que la justice peut aussi servir à ces hommes à se reconstruire.
La justice peut servir et puis j'espère que vos chroniques serviront à sensibiliser l'administration à cette situation. L'être humain, qu'il soit policier ou pas, n'est pas fait pour vivre ce type de situation. Et on peut entraîner des traumatismes tout au long de sa vie. Donc ça me paraît être le minimum qu'on les prenne en charge.
Tous ces héros du 13 novembre, mais aussi les victimes, les familles des victimes, autant de partis civils qui, depuis le 8 septembre dernier, doivent faire face à Salah Abdeslam et à ses déclarations intempestives.
Dès le premier jour, Salah Abdeslam, enfermé dans le mutisme depuis presque 6 ans, a parlé. Et il en a même dit plus que ce qu'on lui demandait, puisqu'au moment où le président lui demande de décliner son identité, nom, prénom, date, lieu de naissance, il a préféré prononcer une profession de foi. Et au moment de donner sa profession, il a dit « J'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique. » Autre propos dès ce premier jour d'audience, c'est pour se plaindre de son traitement et de ses conditions de détention, dangereux ou pas dangereux. On est des êtres humains, on a des droits, on n'est pas des chiens, mais on est traités comme des chiens. Propos choquant, déconcertant, car soit on s'était conditionné au fait qu'il ne parlerait pas, soit au fait qu'il n'irait pas jusque-là.
Le dédain, le mépris et l'arrogance de Salah Abdeslam, on savait qu'il était, il avait une personnalité particulière. Il est totalement narcissique et imbu de ses convictions.
Ce qui m'a vraiment choqué, c'est Salah Abdeslam est vraiment un fou furieux. Et le fait qu'il parle, ça nous replonge un peu dans la folie, la terreur de ces mecs.
Mais ça n'était que le début. D'autres déclarations de Salah Abdeslam vont suivre et choquer à nouveau, notamment quand il a voulu justifier les attentats du 13 novembre. Des représailles, selon lui, au bombardement de la France contre l'organisation terroriste État islamique en Irak et en Syrie. On a visé des civils, mais on n'a rien de personnel à leur égard. Puis il y a deux jours encore, si la France compte ses morts, nous avons arrêté de les compter. On peut se faire la guerre, se détester, mais la porte du dialogue doit toujours rester ouverte. Salah Abdeslam qui veut dialoguer, ce à quoi le président a répondu que ça n'était pas en tirant avec des kalachnikovs sur des personnes civiles qu'on était dans le dialogue. Fin de cette parenthèse. Très vite en tout cas, on a compris, le principal accusé est décidé à se faire entendre. Il ne répond pas forcément aux questions. Ses prises de parole sont inopinées, elles sont brutales. Pour intervenir d'ailleurs, il n'hésite pas à se lever, à couper la parole, à montrer du doigt le président certains jours. D'autres, il se montre plus calme, assure qu'il ne veut pas provoquer. Et sur le fond, on sent quand même qu'il veut se faire passer pour un grand soldat de l'État islamique, ce qui n'est pas forcément. Donc très vite, les journalistes qui suivent ce procès hors normes, habitués à retranscrire les audiences comme si on y était, vont se poser des questions inédite pour comment raconter l'audience et ne pas offrir une tribune à Salah Abdeslam qui n'en finit pas d'enchaîner les provocations. À nous de trouver une ligne de crête pour tenir ces 9 mois d'audience. Même questionnement pour cet avocat.
Il va dérouler son idéologie. Et il faut faire attention à une chose, je pense, dans ce procès. C'est que la cour d'assises ne doit pas être une tribune pour qu'il puisse exposer ses idées mortifères.
Alors, faut-il retranscrire toutes les prises de parole de Salah Abdeslam au risque de lui donner une tribune ou d'en faire une star de l'audience? Ce casse-tête dépend aussi d'un homme quand même. Je voudrais dire un mot sur lui. C'est le président de la cour d'assises, Jean-Louis Périès, qui pour le moment démontre chaque jour sa maîtrise, parvient à faire la police de l'audience, qui n'est jamais déstabilisée, même dès les premières déclarations de Salah Abdeslam. Il n'avait d'ailleurs pas hésité à lui couper le micro quand celui parlait, alors que la parole ne lui était pas donnée, le laissant d'ailleurs parler dans le vide, derrière son box, sans le son. Est-ce qu'il faut pouvoir contrôler ce que dit Salah Abdeslam?
Oui, c'est effectivement le travail du président de l'audience qui le fait, je crois, très bien. Après, je crois que sur la question de savoir s'il faut le laisser parler et en parler, oui, bien sûr que oui, mais il faut y répondre. C'est le pur produit de l'idéologie victimaire. Il est victime une bonne fois pour toutes. Ce qui l'empêche de se remettre en cause d'une quelconque manière, c'est un véritable lavage de cerveau. Il y a une vraie différence entre le procès du 13 novembre et celui de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, c'est que dans le nôtre, aucun ne justifiait les attentats. Lui, il les justifie. Et il les justifie comment? Alors, il parle, il fait des déclarations sur ceux qui, les enfants qui sont morts en Syrie. Mais ça n'a aucun sens. Quand on tue des innocents, c'est une barbarie. En quoi ça justifie d'aller tuer des gens aux terrasses de café ou dans des salles de spectacle? Qu'est-ce qu'on fait pour les chrétiens d'Orient et le calvaire qu'ils visent? On va aller tuer quel innocent? Quelle population innocente? Ça n'a aucun sens. Et quand je vois quelques intellectuels anciens du CNRS trouver que ces arguments-là sont peut-être pertinents, ce sont des insanités. Il faut y répondre.
François Burgard, on peut le nommer.
En gros, nous serions en partie responsables de ces attentats. C'est ça l'idéologie victime.
C'est toujours ça. Les victimes ne sont pas si innocentes que cela, et les bourreaux ne sont pas... Non. Les bourreaux, les vrais méchants, ce sont ceux qui tuent, pas ceux qui blasphèment, qui vont boire des verres ou qui vont écouter de la musique.
Mais pour rebondir sur la chronique d'Émilie, sur le plan médiatique, Évidemment, il y a un problème et le cas de conscience des chroniqueurs judiciaires de retranscrire ou pas, de mettre en valeur les propos de Salah Abdeslam. Mais sur le plan judiciaire, sur le plan purement judiciaire, la libre expression de l'accusé, c'est la base d'un procès équitable. On a craint pendant des moments. On a craint ou on a déploré pendant des mois qu'il ne dise rien, qu'il s'enferme dans le mutisme. Et aujourd'hui, on ne peut pas lui reprocher d'exprimer, au fond, quelles ont été les motivations.
C'est le principe du contradictoire. S'il veut dire des énormités, il a le droit de les dire au moment où on lui donnera la parole pour s'expliquer sur les faits. Ce n'est pas n'importe quand pendant le procès, à n'importe quel moment. Mais on ne peut pas interdire à un accusé de dire ce qu'il veut. Carlos prenait la parole pendant 5 heures d'affilée pour
cette diatribe. Carlos Ramirez Sanchez. Voilà. Même si ces mots, ces provocations, ça ne fait que raviver votre colère, Richard Malka.
Je plains vraiment. Et j'ai beaucoup je pense beaucoup aux parties civiles qui sont dans ce procès-là, parce que être confronté à ce discours-là, oui, ça doit être encore plus terrible.
Il n'empêche, ils seront jugés par un tribunal démocratique, alors qu'ils n'ont foi que dans la justice divine. C'est tout l'enjeu, évidemment, de ce procès. Le droit d'emmerder Dieu. Revenons à cette plaidoirie prononcée le 4 décembre dernier devant la Cour d'assises spéciale de Paris, que vous avez mis beaucoup de temps à écrire au mot près, parce que c'est quoi ? C'est un concentré de 30 ans de vos combats pour la liberté d'expression.
On peut dire que j'ai mis 30 ans à l'écrire, effectivement. alors après, j'écris toutes mes plaidoiries parce que je suis un grand angoissé et que ça me rassure de poser ça par écrit, quitte évidemment à changer, à raccourcir, à rallonger, à tout modifier en plaidant, mais j'ai besoin d'avoir une base écrite. Et oui, j'ai mis du temps parce que ce procès n'était pas comme un autre en soi, et puis pour moi encore plus. Et parce que j'ai essayé d'aller chercher au fond de moi ce que j'avais déjà beaucoup plaidé, ce que j'avais vécu tout au long de ces années, et puis parce que les familles étaient là, parce que je plaidais aussi pour des amis qui n'étaient plus là, eux. Et que
l'histoire de Charlie Hebdo, vous l'avez vu, c'est mon histoire, l'avez accompagné aussi, depuis le début. Ouais.
Et que j'avais beaucoup de choses à dire, que j'avais tous ces cris-là à pousser. Les cris dont je vous parlais au début d'émission, que je veux convaincre que si on abandonne ce droit-là, alors l'hiver reviendra, et pour très longtemps.
L'audience, ce jour-là, votre plaidoirie a duré 1h20. Et pour la prononcer, vous êtes arrivé ce matin-là avec des béquilles, parce que votre corps n'avait pas supporté justement toute l'importance des cris à pousser.
Oui, alors il faut dire que à cause du Covid, le procès est devenu un moment très compliqué puisqu'il s'est interrompu. Au bout de 2 mois, il s'est interrompu juste avant que je ne doive plaider. Et donc de semaine en semaine, il était prévu que je plaide. Donc je me préparais toute la semaine, la tension montait, l'adrénaline. Et puis le dimanche soir, le président m'appelait et me disait « Ah ben non, ça, il n'est pas remis, donc c'est une semaine de plus ». Donc effectivement, nerveusement, c'était un peu compliqué. Et dans les derniers jours, mon corps a un peu lâché. Mais bon, grâce à la médecine, tout s'est bien terminé.
Le droit d'emmerder Dieu, c'est le rapport essentiel qu'il n'y a pas d'obligation à respecter Dieu, ce que vous avez dit tout à l'heure.
Qui, par ailleurs, se débrouille bien tout seul pour se défendre. Il n'a pas besoin qu'on vienne tuer en son nom.
Mais ça ne veut pas dire adopter des positions anti-religieuses. Ce titre-là, ça n'est pas une provocation,
non.
Richard
Malka. Non, je ne le vis pas, je n'ai pas cherché à faire de la provocation. Les gens croient, et ils ont le droit de croire, et ils ont le droit de respecter Dieu. Je ne dis pas qu'il faut ne pas respecter Dieu. Je dis qu'on doit avoir le droit de ne pas le respecter. C'est une grande différence. Je n'ai pas de discours anti-religieux. J'ai un discours de tolérance, au contraire. De tolérance, y compris à l'égard de ceux qui ne croient pas et de ceux qui n'ont pas envie d'aimer Dieu.
Un combat que vous n'allez jamais cesser de mener et que vous continuez à mener chaque jour un peu plus, Richard Malka.
Je crois qu'effectivement, je ne cesserai pas de le mener. C'est ma place. Et on peut dire que voilà, c'est là que je dois être. Exactement là. Je ne sais pas si j'ai raison, si j'ai tort, mais je sais que c'est ma place dans le cosmos au sens des Grecs.
Mila, que vous défendez, continue, elle, de se battre pour défendre cette liberté de critiquer les religions. Et elle nous a raconté son combat et voilà ce qu'elle en disait en juin dernier.
Je dirais fière de me battre pour quelque chose que le pays dans lequel je vis a perdu, quoi. Moi, je demande rien, je demande pas de prix, pas de médaille, rien du tout. J'ai simplement envie de... Et puis, à la base, j'en avais pas envie. Hein. J'avais pas envie d'être impliquée là-dedans, mais si ça doit être moi, je voudrais pas non plus que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Bah, y a tellement de raisons pour lesquelles je ne me tairai pas. Je pense que la plus évidente, celle à laquelle les gens ne réfléchissent pourtant pas vraiment, j'ai pas à me cacher. J'ai pas à me cacher, j'ai rien fait de mal. Bon, c'est des choses que j'ai souvent répétées, mais qui n'ont pas l'air de rentrer généralement.
Pas l'air de rentrer, oui.
Ouais.
Elle dit deux choses. Elle dit le pays a perdu le combat, mais elle va continuer de se battre. Elle a déjà gagné le combat ?
Eh ben oui. Partiellement, en tout cas. Mais elle m'impressionne vraiment, cette jeune fille-là. Et elle l'a gagné parce que les choses ont changé depuis le procès qui a eu lieu au mois de juin. C'est plus la même histoire.
Où ces harceleurs ont été jugés.
C'est-à-dire qu'on nous expliquait depuis des années, et je suis venu sur ce plateau en parler déjà, que sur Internet, sur les réseaux sociaux, on ne pouvait rien faire, que c'était la loi de la barbarie, de l'anonymat, que c'était comme ça, que c'était les jeunes, et qu'il fallait l'accepter. Et bien en fait, non. Elle ne l'a pas accepté, on ne l'a pas accepté, on a obtenu ses jugements, et depuis, les choses ont changé. Et les menaces ont été divisées par 1000. C'est-à-dire que, effectivement, la peur a changé de camp. Ça veut dire quelque chose de très intéressant.
Il ne peut pas y avoir une Mila à nouveau en France,
non, mais,
une deuxième.
Oh, il y en aura, c'est pas gagné. Là aussi, c'est jamais acquis. Mais en tout cas, ils font attention. Maintenant, les jeunes, quand ils tapent leur message d'insulte, ils se disent, même quand ils sont anonymes, ah, on va pouvoir me retrouver, parce qu'on les a retrouvés. Ce qui veut dire quand même une chose, c'est que quand on est ferme sur nos valeurs, quand on ose les affirmer, eh ben, ça change. Et on fait bouger les choses. Et cette jeune fille, eh bien, ce combat-là, il a servi à tout un pays.
Ferme sur les valeurs, à partir de 2006 et la publication des caricatures danoises de Mahomet, tous les politiques en France ont été priés de se prononcer sur cette question des caricatures, voire du blasphème et de la liberté de blasphémer. Dès février 2006, Dominique de Villepin, Premier ministre de Jacques Chirac, évoque le sujet, on va dire avec quelques pincettes.
Nous sommes attachés à l'exigence de liberté, de démocratie qui est à la base, bien sûr, de ce qui fonde notre pays, mais aussi à l'exigence de respect. Et c'est pour cela que nous souhaitons concilier les deux et éviter, bien sûr, tout ce qui peut blesser inutilement, et en particulier dans le domaine des convictions religieuses, toutes les convictions religieuses.
Eh oui, l'exigence de respect, c'était le premier mauvais exemple à donner.
Eh oui. On a trahi, lui et beaucoup d'autres, et j'en fais la recension.
Vous citez Jean-Marc Ayrault, Jean-Luc Mélenchon.
De ma plaidoirie. Et le président de l'époque, Chirac.
Et le président de l'époque.
Il fait un communiqué pour dire qu'il ne faut pas blesser.
Hein. Et Bill Clinton, et le secrétaire général de l'ONU. Mais eux, à la limite, ils sont d'une culture anglo-saxonne, donc ce n'est pas la nôtre. Mais ça veut dire que ces gens ont trahi ce qu'est l'esprit français, ce qu'est la loi française, ce qu'était l'esprit, l'histoire, la Révolution française, en quelques jours, en quelques semaines.
À droite comme à gauche.
À droite comme à gauche. Et ce, sur le fondement d'une affaire, et ça, c'est le début du livre, qui est une escroquerie. Puisque, je le raconte au début, puisqu'en fait, les imams danois, les fameux imams danois, ont inséré des fausses caricatures qui n'avaient jamais été publiées dans le Jylland Posten pour émouvoir et pour mobiliser les foules. Et sur le fondement de cette escroquerie, en quelques jours, en quelques semaines, tous les politiques de droite comme de gauche parlent d'exigence de respect.
Mais par quoi ? Par lâcheté ? Par cynisme ? Par compromission ? Quelle est l'explication ?
Probablement par manque de réflexion sur les conséquences de ces mots, parce que les mots ont des conséquences, et parfois elles tuent ces conséquences-là, par lâcheté, par confort intellectuel.
Vous souvenez aussi qu'il y avait un certain nombre de pays qui étaient à feu et à sang à cause de cette histoire, ce moment-là, au moment où les réactions sont prises.
Bien sûr.
Pays étrangers, que ce soit en Europe du Nord ou au Pakistan, en Inde, en Égypte.
Mais sur le fondement de ce type de raisonnement, on peut abandonner l'égalité entre les hommes et les femmes, les droits des
hommes sexuels.
C'est un raisonnement qu'on retrouve aujourd'hui dans les jeunes générations, dans les classes, où la laïcité parfois est vue d'ailleurs comme une provocation, pas comprise. Il faut laisser les autres vivre leur religion et donc porter des signes religieux, par exemple.
Et oui. C'est tout le problème.
C'est un contresens de la liberté d'expression.
Vous avez raison sur cette idéologie qui existe. Dans la jeunesse, ça veut dire qu'on n'a pas appris la beauté de ce principe qu'est la laïcité qui nous permet tous de vivre ensemble. Parce que si on amène tous nos dieux, nos croyances, comment on fait ? Alors, il y a deux solutions. C'est soit la société communautariste, où en fait, chacun vit séparément et ne se mélange pas. Ce n'est pas le choix qu'on a fait.
On ne vient pas comme on est, on ne vit pas
comme on est. Soit on n'arrive pas à vivre les uns avec les autres, et c'est les guerres de religion. La laïcité, c'est fait pour répondre à des siècles et des siècles de guerres de religion. Et l'universalisme, c'est fait pour considérer l'universalité de notre condition humaine. C'est-à-dire que je vous regarde tous, pas parce que vous êtes une femme, que vous êtes un homme, que vous avez telle religion, telle autre, telle couleur. Non, on est égaux dans notre condition humaine. Et on se regarde d'abord comme cela. Et on laisse de côté nos différences.
À nous de rire, d'aimer, de dessiner, de lire, de jouir de toutes nos libertés, de vivre la tête haute, face à tous les fanatismes, le droit d'emmerder Dieu, plaidoirie signée Richard Malka dans son intégralité. Donc c'est un peu plus d'1h20 si on la lit à voix haute.
C'est
1h40 si on la lit à voix haute. Vous restez avec nous, le reste de l'actualité, c'est le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir Mathieu.
C'est à la une de Paris Match demain, Éric Zemmour et sa très proche conseillère.
Une enquête sur une femme, Sarah Knafo, éminence grise du journaliste, polémiste aujourd'hui, presque candidat demain. On apprend dans ce dossier de Paris Match que c'est elle qui organise, qui tire les ficelles. Elle est énarque, magistrate à la Cour des comptes. Elle connaît le tout Paris, des chefs d'entreprise aux conseillers politiques. Elle est de tous les dîners en ville. Celle qui murmure à l'oreille de Zemmour, lit-on, avec des photos pour le moins ambiguës, en une comme à l'intérieur du journal. On peut se demander ce que veut dire proche conseillère.
Et on accueille tout de suite Émilie Lanez qui signe cette enquête à lire dans Paris Match demain. Bonsoir Émilie Lanez. Merci de votre présence ce soir. Vous décrivez dans cet article un duo politique, mais vraiment, le lecteur peut raisonnablement penser que vous parlez d'un couple.
Émilie Lanez. Je ne crois pas. Le lecteur qui a lu mon article ne peut pas penser que je parle d'un couple. Je parle d'un binôme politique. Qui a longtemps fonctionné avec l'un exposé et l'une dans l'ombre. J'ai enquêté plusieurs semaines sur ce personnage très intrigant, cette directrice de campagne dont tout le monde parle et que personne ne voit.
Le choix des photos n'illustre pas réellement les activités d'un duo professionnel, mais plutôt d'un couple qui profite d'un bain de mer avec une proximité. Enfin, l'ambiguïté, le choix des photos entretient cette ambiguïté et nous fait penser, peut faire conclure à un lecteur que vous parlez d'un couple et non pas d'un duo.
Oui, c'est une ambiguïté...
Assumée ?
Non, c'est une ambiguïté que vous soulignez, je ne sais pas si elle existe. Il se trouve que ce week-end, Éric Zemmour invite 63 médias. C'est le lancement de sa pré-campagne, officiellement la promotion de son livre. Sur une plage publique, pendant un week-end médiatique, un personnage public et sa conseillère choisissent d'aller se baigner. C'est leur choix.
Si c'était un duo d'hommes qui se baignaient, vous les auriez photographiés de la même façon. Je me suis posé la question en lisant votre magazine.
Peut-être, si c'était deux politiques très proches qui travaillent ensemble, qui ont choisi d'aller se baigner ensemble pendant un week-end où ils ont accrédité 63 médias pour venir les suivre, qui marchent dans la rue, parlent, qui sont ensemble dans la loge.
Dans l'ouverture, il n'y a pas les journalistes qui sont là.
Sur la plage, il y a énormément de monde.
Il y a énormément de monde là qui photographie le bain.
Il ne se cache pas, parce que ce qu'on découvre aussi dans cette enquête, dans votre article, c'est qu'en réalité, elle a choisi désormais de s'afficher à ses côtés, là où elle était plutôt discrète auparavant.
Je ne suis pas tout à fait sûre qu'elle ait choisi de s'afficher. Elle a choisi de maîtriser dans l'ombre, de laisser lire, de laisser penser. Elle donne très peu d'interviews, je crois être une des premières à lui avoir parlé. Elle voudrait... choisir, elle, le timing de tout et que la presse suive son calendrier. Là, avec le portrait, nous avons un peu accéléré, mais c'est notre liberté aussi d'aller poser des questions. Et ce n'est pas à eux de fixer le calendrier, nous avons aussi le nôtre. L'intérêt est légitime, vous reconnaîtrez avec moi qu'en cette rentrée, on ne parle que de la campagne d'Éric Zemmour.
Elle vous a dit alors quand il se déclarerait candidat ?
J'ai cru comprendre, elle me l'a laissé entendre de manière subtile à nouveau mi-novembre.
Entre les puissants, elle a plutôt tendance, quand on vous lit, à cacher son jeu. Elle ne se dit pas d'office proche d'Éric Zemmour. Et ça rejoint ce que vous disiez, vous décrivez une femme d'intrigue.
Intrigue, je ne crois pas avoir utilisé ce mot. C'est une femme très habile, d'une intelligence remarquable, très, très enjôleuse, très riante, très solaire, une énergie dingue. Vraiment, partout où elle a travaillé pendant ses stages de l'ENA, elle a laissé des impressions extraordinaire sur son travail, c'est une grande professionnelle. Et ceux chez qui elle a travaillé après ont été extrêmement surpris de découvrir qu'elle travaillait pour Éric Zemmour, car elle n'en dit jamais rien. C'est son choix.
Et de la manif pour tous au syndicat étudiant uni, je ne fais pas toute la liste, c'est elle qui rassemble cette droite-là auprès d'Éric Zemmour ?
C'est elle qui la rassemble, c'est elle qui recrute, toutes les candidatures passent par elle, c'est elle qui choisit les conseillers, les communicants, c'est elle qui anime les réunions, c'est elle qui fait le calendrier. C'est un personnage politique de première importance, oui.
Un personnage politique, en tout cas médiatique de première importance, c'est le cas d'Éric Zemmour, qui occupe cet espace avec un discours très tranché. Votre regard sur le discours d'Éric Zemmour ?
C'est... Il devient le point cardinal de ce début de campagne électorale, ce qui est assez étonnant, voire inquiétant. Pour moi, c'est le symptôme d'une double maladie française, celle de l'extrême droite qui voit tous les musulmans comme étant des envahisseurs et celle de l'extrême gauche qui voit tous les musulmans comme étant des victimes. Le débat est confisqué par ces deux discours-là. Non, les musulmans sont des avocats, des médecins, on les a vus beaucoup pendant le Covid, des journalistes, des présentateurs, des artistes, des comptables, des ce que vous voulez. Ces deux visions sont aussi caricaturales l'une que l'autre. Ils sont parfois les plus grands défenseurs des valeurs républicaines, bien plus que des conseillers d'État français depuis 25 générations. Et puis parfois, ils refusent les valeurs républicaines. C'est-à-dire que c'est pas possible d'enfermer toute une population comme ça dans des cases. Il a tort de le faire. De l'autre côté aussi, je regrette qu'il n'y ait pas un discours de raison, en particulier de la gauche modérée, pour nous offrir une troisième voie.
Face à Zemmour, justement, Marine Le Pen, qui ne sait plus sur quel pied danser.
Ah, c'est compliqué, hein, franchement, pour le Rassemblement national, cette rentrée. Ces dernières années, Marine Le Pen a fait le maximum pour adoucir son image, pour faire oublier, pour faire moins peur qu'à l'époque du FN de son père. Mais ça, c'était avant. Alors qu'un sondage donne Éric Zemmour à 11%, le Rassemblement national réfléchit à changer de braquet. Vous vous souvenez peut-être de cette affiche, tout en douceur, pas encore placardée. Elle a quelques jours seulement, Liberté, Liberté chérie. L'encre est encore fraîche, mais déjà des cadres du RN la qualifient d'affiche bisounours. Autour de Marine Le Pen, on réfléchit à revenir aux fondamentaux. Parfois, il faut s'accrocher pour suivre, regarder le président du parti par intérim, Jordan Bardella. Être dur et rassuré à la fois, rassuré sans se laisser déborder, exercice périlleux.
On a souvent reproché d'avoir l'immigration comme seul sujet, comme seule obsession, comme seule obsession, comme seule obsession. Nous avons été les premiers, depuis 40 ans dans notre pays, à tirer la sonnette d'alarme sur la question de l'immigration. Si nous arrivons à la tête de l'État, nous stopperons l'immigration. Nous voulons résoudre concrètement les problèmes de l'immigration dans l'unité du pays. On peut parfaitement être français de confession musulmane, être assimilé aux valeurs de la République et participer de la communauté nationale. Notre pays est menacé de disparaître. L'islam politique n'est pas compatible avec la République.
Et dans les jours qui viennent, hein, vous allez entendre à nouveau parler de priorité nationale, d'immigration et de France aux Français dans la voie du Rassemblement national.
Politique toujours, la droite veut entendre Nicolas Sarkozy sur la présidentielle.
Hier, séance de dédicace de son livre « Promenade » à Neuilly-sur-Seine. Il joue à domicile à Neuilly. En arrivant, on l'a vu commenter la crise des sous-marins et soutenir le chef de l'État. Mais pendant la séance de dédicace, Iban Raïs et Anaïs Recouli ont pu lui poser quelques questions, et notamment des questions sur son déjeuner de la veille avec un certain Xavier Bertrand.
Un membre de ma propre famille qui souhaite être candidat à l'élection présidentielle vient de parler avec un de ses amis, il a été mon ministre. C'est normal.
Même si ça n'a pas été tout le monde entre nous.
Vous savez, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et quand on fait de la politique, il faut savoir oublier, pardonner et regarder tout droit vers l'avenir. C'est très important. Je prendrai parti. Je dirai ce que j'en pense. Et il n'y a aucune raison que je ne le fasse pas. Pas maintenant. Si je le faisais maintenant, ça fermerait le débat. Alors que le débat, il a besoin d'être ouvert.
L'ancien président qui met un pied dans la présidence, un tout petit doigt de pied en réalité, pour voir si elle est bonne, il ne s'agirait pas de trop se mouiller tout de suite. Alors comme nous étions dans son fief de Neuilly-sur-Seine, on sait que des fans étaient là pour la dédicace et on a pu leur poser la question. À votre avis, Nicolas Sarkozy va soutenir qui ?
Alors là, je n'en sais mais strictement rien.
Moi, je pensais plutôt Michel Barnier.
Mais Monsieur Macron.
Naturellement, je pense qu'elle soutiendrait Xavier Bertrand. Honnêtement, parce que c'était l'un de ses ministres. Il a dîné avec lui cette semaine. Donc je pense qu'il le soutiendrait tout naturellement.
Je crois à Pécresse. Hein.
Pourquoi ?
Parce que Pécresse se rapproche plus des idées de Sarkozy. Et je crois que c'est la meilleure option pour la droite.
Il ne va pas soutenir le candidat de son parti ?
Non.
Pas Xavier Bertrand, pas Valérie Pécresse.
Non.
Pas Michel Barnier.
Non. Monsieur Macron.
Mon sixième sens me dit Pécresse. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, sixième sens, Pécresse.
Ah ça, je peux pas vous dire, j'ai pas l'information encore. Mais ça viendra sans doute.
Attends, dès qu'on a l'information, on vous la donne, madame, c'est promis.
Patrick. Un petit mot encore sur la couverture de Paris Match avec Émilie Lannes, parce qu'on a bien vu que vous assumez le texte, mais pas les photos.
Ah ben j'assume tout, j'assume le journal dans lequel je travaille. Pourquoi ne l'assumerais-je pas, ces photos? Des photos parce prises que... dans un lieu public, par un personnage public.
Dans un lieu public, mais pas paradisé.
Absolument pas.
Pas paparazzé.
Ça veut dire quoi, paparazzé?
Paparazzé, ça veut dire pris clandestinement.
Ce ne sont pas des photos posées.
Ce
sont
pas des photos posées, non.
Oui.
Non. Ce sont des photos volées.
C'est un personnage politique, on est d'accord. Mmh. Il lance sa campagne, il fait la tournée de promotion de son livre. Il y a 3000 personnes qui viennent l'écouter. Il va se baigner, il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, 70 médias présents.
En enlaçant une femme avec le titre Zemmour et sa très proche conseillère.
Sa très proche conseillère.
Ça ne trompera
aucun lecteur sur le signal et l'information envoyée par votre couverture.
Oui, mais vous voyez ce que vous voulez. Moi, j'ai écrit ce que j'ai écrit. C'est un sujet politique.
Un avocat.
Ben, j'y vois une atteinte manifeste à la vie privée des deux personnes qui sont sur cette photo. C'est évidemment une photo volée. C'est un moment privé. J'ai aucun problème avec le texte, que c'est parfaitement légitime de parler, d'évoquer, de faire connaître la principale conseillère, effectivement, de quelqu'un qui va probablement être président, candidat à la présidence de la République. Donc oui, ça c'est légitime. Par contre, la photo, je vous le dis, moi, ça me met mal à l'aise. J'ai beaucoup d'estime pour mes amis de Paris Match, mais vous connaissez mon combat pour la protection de la vie privée, et ça, c'est une atteinte à la vie privée. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça, que ça ne se fait pas. Voilà. Et qu'on répond sur des idées, sur un combat politique, pas comme ça.
Oui, mais cher Richard Malka, nous ne sommes pas allés les suivre dans la rue, nous ne sommes pas allés scruter par le
ils
trou de la serrure.
Exposés, c'est ce que
nous n'avons pas suivi. Ils ont pris un risque gigantesque, en conscience, ils sont responsables.
Ça sera la plaidoirie quand il y aura le procès.
Là, vous inversez complètement les choses.
Il faut conclure sur ce sujet, Richard Malka.
Des personnes politiques dans la rue, s'enlaçant, n'ont pas à être pris en photo. C'est la vie privée de chacun. Et en fait, on s'en fout. C'est pas pour ça que...
Dans les pages intérieures, on les voit côte à côte, discutant, travaillant, et c'est vrai que ça aurait pu suffire. Enfin, c'est absolument une question qu'on peut se poser. À 97 ans, est-ce qu'on a droit, est-ce qu'on a sa place sur TikTok? Tout autre sujet.
Ah oui. Tout autre sujet, la réponse est oui, Babette, un grand oui. Je vais vous présenter ce soir Lily Ebert, rescapée des camps de la mort. Elle a 97 ans, 1 400 000 abonnés sur TikTok. C'est son arrière-petit-fils Dove Foreman qui fait d'elle une passeuse de mémoire dans ses vidéos. Elle répond à des jeunes, parfois des très jeunes. Lily Ebert raconte l'horreur de la Shoah.
We had some watery soup. When we find a half a potato, that was something special. Kneeling down on these little stones on the earth, a buggy with baby. That baby still exists. Even today, after more than 70 years, to talk only about it hurts.
Et vraiment, allez voir son compte, des dizaines de vidéos. Il y a le récit qui est horrible, bien sûr. Il y a la transmission. On y trouve aussi des sourires, son lien avec son arrière-petit-fils, de l'amour entre Lily et Dove. Maître Richard Malka, on a parlé des réseaux beaucoup, de ce qu'ils peuvent proposer de pire. On a évoqué à l'instant l'affaire Mila. Là, on les voit dans ce qu'ils ont de plus didactique, utile, positif.
Ah, mais personne n'a dit qu'il n'y avait que du négatif sur les réseaux sociaux. Ce que l'on souhaiterait, c'est qu'ils grandissent pour arriver à maturité. Et c'est une régulation de ces réseaux, mais personne n'imagine de les supprimer.
Merci beaucoup Mathieu. Qui a dit que tous les bébés étaient mignons? Ben nous. On est attendris, même devant une photo floue du petit Mohamed Bouafsi en couche culotte. Est-ce qu'on peut la voir, cette photo? Oh, voilà, elle arrive. Adorable bouille d'Émilie, déjà sur la rampe du succès. On fond devant la malice de Pierre, auquel on aurait tort de donner le bon Dieu sans confession. À cette petite coquine non plus, il ne faut pas faire confiance. Voilà. Bref, il n'y a jamais que l'actrice Leïla Bekti pour dire que bébé, elle était le sosie de Bruce Lee. Avant d'assumer sa ressemblance avec Mireille Mathieu, rapport à la coupe. Aujourd'hui, c'est plutôt Isabelle Adjani qu'on la compare pour ses talents d'actrice et la place qu'elle occupe dans le cinéma français, mais aussi désormais dans la chanson. Plus brillante, de plus belle, pour une autre étincelle, je me changerai en heure pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Leïla Bekti est ce soir notre invitée. Ding ding ding, il y a une petite musique. Bah, faites pas cette tête. Je... Non, 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 c'est interdit.
Bonsoir Leïla.
Bonsoir Leïla. On est ravis de vous accueillir. Ouais, pourquoi aussi. Cette tête?
Je sais pas. C'est, non, j'ai pensé à Bruce Lee, Mireille Mathieu.
Mais elles sont géniales, ces photos.
Ouais, mais elles sont... C'est pas, tous les enfants ne sont pas beaux. C'est pas grave. Il faut se le dire, c'est vrai. Non, c'est vrai, faut pas...
On est ravis de vous accueillir pour parler de, des Intranquilles, excellent film de Joachim Lafosse, présenté à Cannes en compétition officielle, dans lequel vous formez un duo extraordinaire avec Damien Bonnard, mais aussi pour parler de vous, de votre carrière singulière qui fait rimer le glamour et l'humour, comme vous venez de le prouver. De quoi faire dire à M, le magazine du Monde, que vous êtes une star d'aujourd'hui, une star d'à côté. Il y avait la girl next door, maintenant il y a la star next door. Ça vous va, ça, comme définition?
Star, non, c'est, en tout cas, oui, d'être... là, on m'a dit tout à l'heure, j'aimerais bien être ta copine. Moi, ça me fait plaisir quand j'entends ça. Ouais, évidemment.
Ça veut dire qu'on peut être une grande actrice et pas faire des mous et des poses d'actrice.
Tu penses à qui
Non, on peut faire les deux. Moi, j'aime bien les mous, j'aime bien les... Non, mais il faut faire, les deux. Enfin...
Non mais c'est... mou pas mou. Ce qui est génial, c'est qu'à la une du magazine du Monde, M le magazine, on vous voit une patte en l'air.
Ouais, j'ai adoré cette séance photo. C'était extraordinaire. C'était...
Ah oui, vous posez pas là.
Ah non. Ah ouais, là je pose pas.
Alors que d'habitude, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, ils font des mous d'acteurs, quoi. Ils sont sérieux. Vous non.
Non.
Non, c'est comme ça.
Brad et Léo, ils n'ont pas encore compris.
Ils n'ont pas. Il va falloir leur faire un tuto humour glamour.
On va leur dire Brad et Léo pour la prochaine.
Chat, humour, simplicité, grand talent, grande actrice, un registre très différent dans Les Intranquilles. C'est Leïla Bekti. On poursuit la conversation avec elle dans un instant. Le Vu, les actualités de Bertrand, la story de Mohamed Bouafsi, le dîner de C'est à vous, Anne Berest. Ah ouais. Plein de choses à faire encore. Merci Richard Malka. Merci beaucoup Émilie Nonnez, merci Mathieu, salut Émilie. Nous on est là, on tient la baraque avec Leïla.
Bon.
Improbable.
Bon.
On est là, on tient la baraque. Ouais. Et on a été coupés.